Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment gérer le sentiment de ne plus être aussi performant et de devoir en faire toujours plus? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un criblage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider justement à devenir ces champions et championnes du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante bertrandsoulier.com/bonus et bien sûr, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant, attaquons-nous au sujet du jour, qui est un épisode solo, je dois le dire. En fait, j'aime bien ces épisodes solo parce que ça me permet de partager avec vous un petit peu ma vision de certaines difficultés que nous rencontrons. Et c'est vraiment une difficulté qui est majeure, vraiment majeure. J'ai eu deux questions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plein d'invités. J'ai plein d'invités dans les prochains épisodes du podcast. Mais alors, j'en ai... Je vais en enregistrer plein dans la semaine. Là, j'en enregistre deux ou trois la semaine prochaine. Vraiment, puis des invités, vous allez découvrir des invités vraiment avec des parcours, avec des conseils, des choses qui sont vraiment super sympas. Plus aussi, bien sûr, il y aura mon retour sur le 24 heures avec vos questions, avec... J'espère pouvoir faire pas mal de choses autour du 24 heures. Mais cette semaine, en fait, ben j'avais un espace, un bout d'espace en fait, on peut dire que je pouvais prendre la parole seul. Et donc je vous ai demandé sur mon compte Instagram, @BertrandSoulier, si vous avez des questions, des problématiques, des choses qui étaient peut-être un petit peu compliquées à régler, sur lesquelles ça pouvait vous empêcher de progresser. Et donc j'ai eu deux questions que j'ai choisi de mettre en relation. La première question vient de Leïla qui demande comment on gère la baisse de perf dans la durée et comment on garde la motivation. Et puis Jean-Yves m'a demandé... S'il faut toujours aller plus haut, plus fort, plus loin, toujours le plus. Alors, ces deux questions peuvent sembler être déconnectées, décorrélées l'une de l'autre, et pourtant, moi, je vois un lien, en fait, dans cette histoire-là. Et c'est vraiment un sujet qui est vraiment extrêmement important, parce que on vient toucher sur la motivation, et ce qui fait la motivation, ce qui peut la nourrir, ou ce qui peut, finalement, nous démotiver, tuer notre motivation. Et la motivation, c'est vraiment une problématique centrale. Dans vos questions, que je reçois, les questions dans les messages privés, par exemple, sur mon compte Instagram, dans le Hamster Running Club, les accompagnements, dans le tout ce qui est préparation mentale, par exemple. C'est vraiment, vraiment un sujet qui revient souvent. Et d'ailleurs, la préparation mentale s'est beaucoup intéressée à ce sujet. C'est vraiment un élément fort parce que on sait à quel point la motivation est pas si simple que ça à gérer, qu'il y en a tous des moments où on se sent plus motivé que d'autres et qu'il y a des moments donc on se sent démotivé. Et le problème en fait de ces variations de motivation, c'est que si on est démotivé, on arrête. On peut arrêter et ça c'est un vrai problème. Et dans la motivation, il y a un élément qui est important, c'est la progression. Ne pas progresser est démotivant, ne pas arriver à progresser quand on s'entraîne est démotivant, avoir le sentiment de ne plus être capable de progresser est démotivant et ne pas être capable de mesurer sa progression est aussi totalement démotivant. Parce que c'est vraiment là un point qui est vraiment important, on parle d'un sentiment de progression. Est-ce que j'ai le sentiment de progresser ou pas? Est-ce que je commence à stagner? Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est la réalité? C'est vraiment un élément qui est vraiment crucial quand on parle de sentiment, parce que finalement, la question c'est qu'est-ce qui me donne ce sentiment de progresser ou de ne pas progresser? Et là, c'est vraiment un élément clé de la préparation mentale et sur lequel on travaille très régulièrement, sur lequel j'ai travaillé pour moi-même déjà et puis pour plein d'autres personnes enfin que j'ai accompagnées qui m'ont posé des questions. Le nombre de questions que j'ai eues par exemple dans les questions-réponses du vendredi sur MSR Zoning Club, le nombre de questions que j'ai eues en message privé est extrêmement important. Et pourquoi c'est vraiment important et pourquoi j'y tiens vraiment à ce sujet-là? Parce que se démotiver, c'est s'arrêter un jour ou l'autre. Quand on perd la motivation, bah en fait, on ne comprend plus pourquoi on va courir, pourquoi on s'entraîne, pourquoi on fait telle ou telle chose. On perd l'envie, on perd l'engagement qu'on met dans les entraînements. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va mettre le clignotant, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur le bord de la piste, sur le bord de la route, sur le bord du chemin. On va s'asseoir sur un banc et on va regarder les autres courir sans nous. Et ça, ça me pose un vrai problème. Parce que c'est tout l'inverse de ma vision. Ma vision, c'est que notre meilleure vie repose sur SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Et je dis pas forcément, le mouvement c'est pas forcément de la course, mais en tout cas c'est bouger. Ma vision c'est de vieillir en bonne santé, le vieillard galopant, bondissant, celui qui est capable de courir, celui qui est capable de marcher, de faire du vélo, de nager, celui qui est capable de se lancer des défis. Et justement, ma vision c'est aussi de devenir champion du monde, de notre monde, car ça gonfle notre confiance, notre estime de nous, notre courage pour nos projets, que ce soit des projets personnels, des projets pro. En fait, la course dépasse de loin le cadre sportif. Il nous amène, en fait, c'est vraiment du développement personnel, en fait. Pour moi, la course, c'est vraiment un élément de développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on peut faire en course qui vont nous amener dans un état de confiance, de flow. Vous savez, quand on est très concentré, quand on est porté par les choses, d'hypermotivation. On a plein d'éléments comme ça dont on peut parler. Et quand on comprend comment ça fonctionne et quand on comprend comment ça fonctionne dans la course, est-ce que ça peut nous apporter en fait comme confiance en se disant si j'ai fait ça dans la course, pourquoi je pourrais pas le faire dans ma vie perso, pourquoi je pourrais pas le faire dans ma vie professionnelle? Ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment crucial et vraiment tout important, vraiment très important. Et c'est là aussi pour moi la vision, et je vous en ai déjà parlé, je partage régulièrement, en fait le vieillard galopant, le vieillard bondissant, c'est pas seulement un vieillard qui court. Parce que pour arriver à être une personne âgée en bonne santé, heureuse, bien dans sa peau, bien dans sa vie, c'est pas seulement courir, c'est finalement avoir aussi un esprit qui est plus libéré, j'ai envie de dire, plus confiant. On a plus confiance en nous, on a plus d'estime pour nous-mêmes, on se sent mieux, on sent qu'on peut faire des choses. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Et d'ailleurs, je vais vous en parler de cet état d'esprit, parce que une partie de la réponse pour moi réside dans l'état d'esprit. Et vous allez voir que la suite de l'épisode ne va pas ressembler à des conseils qu'on peut retrouver, je pense, dans de nombreux livres de course à pied ou de motivation, parce que je suis allé piocher, en fait, dans mes lectures, dans ma réflexion personnelle, d'autres éléments qui sortent, mais qui sortent vraiment du domaine de la course, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu, vous savez, l'une de mes spécialités. Je l'ai fait sur l'Ikigai, je l'ai fait sur le coureur Toltec. C'est vraiment cette notion-là de dire, dans d'autres éléments, dans d'autres domaines que la course, on peut aller chercher des choses qui vont nous aider dans le sport et en dehors. Et avant de plonger dans les réponses, je voudrais vous dire à quel point je connais ce problème. Mon expérience personnelle m'a amené à connaître ce problème qui est ce double problème déjà de gérer la baisse de performance dans la durée, de garder la motivation, de se demander s'il faut toujours aller plus loin, plus fort, plus. Et c'est la question d'ailleurs qui se peut se poser sur mon 24 heures. Finalement, mon 24 heures n'était pas une preuve que j'en veux toujours plus, allonger distance, courir plus longtemps, courir tous les jours aussi, on pourrait se poser la question. Donc c'est une question que je connais bien et la motivation c'est une question aussi que je connais assez bien parce qu'il y a des moments dans ma carrière sportive, et je dis bien carrière sportive, alors je mettrai des gros guillemets dessus, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans ma reprise du sport, il y a un moment donné aussi où la motivation, je l'ai perdue. Si vous avez écouté tous les épisodes du podcast, vous savez qu'il y a des moments donnés, ma motivation a pu fluctuer fortement. Et que cette année, vous avez peut-être l'impression que j'ai rempli plein de défis avec le 496 challenge au début de l'année, maintenant avec le 24 heures, que je cours tous les jours, etc., que j'ai toujours la motivation. Mais en fait, il y a des moments où je me suis vraiment posé la question, de me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que tu vas continuer? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Comment tu peux faire, etc. Et donc, c'est vraiment un problème que je connais. Mais revenons à la source. À la source, c'est l'étincelle, la motivation pour commencer à bouger. La motivation qui fait avoir des ailes pour préparer une course. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Et vous le savez, si vous avez écouté tous les épisodes de podcast, si vous connaissez mon histoire, la motivation aussi, à un moment donné, elle m'a quitté après avoir réussi cette course-là. La motivation, en fait, je l'avais laissée tomber à un moment donné. Elle était, je l'avais pas entretenue. Quand je dis je l'ai laissée tomber, c'est que je l'ai pas entretenue. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé, faute de projet, sans motivation. C'est pour ça que je dis que je connais bien ce problème. Parce que je connais, en fait, l'étincelle qui donne la motivation pour commencer. Puis je connais la motivation qui permet, en fait, de se dire, mais rien ne m'arrêtera jusqu'à mon objectif. Et puis, une autre fois que l'objectif est atteint, et bien la motivation, finalement, je l'ai plus. Je n'ai plus de motivation. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on retrouve d'autres, à nouveau, la motivation? C'est vraiment, vraiment mon expérience. Elle est vraiment nourrie par ces grandes étapes-là. Donc, reprenons un petit peu. J'ai commencé à courir il y a quelques années. Bon, 105 kilos, rééquilibrage alimentaire, reprise du sport. Pas forcément la course au départ, hein. J'ai fait du HIIT, du fitboxing, de la natation. Mais en tout cas, des sports, vous savez, je me disais, t'es gros, tout le monde dit, quand on est gros, on ne court pas, ça abîme les genoux, ça abîme le dos, etc. Bon, maintenant, je pense que j'ai un avis beaucoup plus mitigé sur la question, mais en tout cas, à ces moments-là de connaissance, vraiment à ce moment-là de connaissance, je ne courais pas. Donc, j'ai fait d'abord un petit peu de fitboxing, de HIIT, et puis de plus en plus intensif, la natation. Et puis un jour, mon coach de fitboxing m'a dit, bah écoute, pourquoi tu n'essayes pas d'aller courir, voir un petit peu, tu cours un petit peu de temps en temps, tu essaies de courir, tu as vu que tu pouvais pas, essaye de voir si en courant, voir si un petit peu ce qui se passe. Et là, c'était une renaissance, vraiment une renaissance. Ce jour de décembre où je vais courir, j'étais allé courir une fois ou deux pour tester un petit peu quand j'ai commencé à perdre du poids, voir ce que ça faisait. C'était très compliqué, mais ce jour-là, avec l'entraînement, du fitboxing, du HIIT, la perte de poids qui se confirmait, j'avais l'impression de voler sur les chemins. Alors, rétrospectivement, ma vitesse de ce jour-là n'était probablement pas très élevée, mais en tout cas, j'étais capable de monter à un endroit, une petite montée, j'étais capable de la prendre en courant, alors qu'avant, je n'étais pas capable de la faire autrement qu'en marchant, parce que c'est une montée courte, et que montée courte que je fais maintenant en courant très régulièrement, des fois je la fais en courant, des fois en marchant, mais à l'époque, la faire en courant était vraiment, pour moi, un exploit par rapport à ce que je faisais avant. Et puis, ça m'a donné des ailes, vraiment. Premier trail, premier 10 km pour fêter mes 40 ans. Et puis, j'ai vraiment enchaîné. Et puis, c'est là qu'ensuite, la progression a été continue jusqu'au marathon. Alors, bien sûr, il y a eu à un moment donné la préparation du marathon. Normalement, j'aurais dû faire le marathon de Lyon. Je me blesse 15 jours avant, j'ai une périostite, je peux plus courir, j'ai mal de partout. Enfin, je peux même plus marcher tellement j'avais mal. Ça a été un échec, mais qui a permis de relancer la machine parce qu'à partir de ce moment-là, tout s'est amélioré. J'ai travaillé ma foulée, j'ai compris aussi qu'il fallait que je fasse plus d'étirements, que mon plan fallait le modifier, que je fasse attention en fait à me remettre en forme un petit peu pour être capable de supporter la charge. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là sur le stress mécanique et vraiment c'était une grosse, grosse période d'apprentissage. Hein. C'est là où on dit que les échecs permettent d'apprendre beaucoup et donc tout s'est amélioré en fait. C'est-à-dire que jusqu'en marathon 2019, tout s'améliore. Ma forme, mon énergie, mon poids, ma ligne, ma vitesse, ma capacité à courir, ma capacité à courir plus longtemps, ma capacité à tenir ma fameuse allure marathon. Et puis, je me suis même vu, en fait, être capable de courir plus vite que ce que je pensais, puisque je partais sur un temps en me disant, je vais faire le marathon autour de 4 heures. Et puis, mes temps sur de course, ma vitesse qui était pas mal en marathon, en allure marathon, mon semi, me disent, bon, bah, tu pourrais peut-être viser 3h30. Donc, déjà, je visais beaucoup plus haut que ce que j'imaginais. Bon, dans la réalité, je fais 3h46. Bon. Il y a des trucs avec Jonathan la semaine dernière, on en a parlé un petit peu de cette histoire-là, de dire finalement le mur que je prends, est-ce que je le prends pas d'abord mentalement plutôt que physiquement? L'épuisement que je ressens n'était-il pas un épuisement programmé parce que en disant bah quand on fait un marathon forcément on passe le mur? Je vous laisse réécouter l'épisode de la semaine dernière pour vous faire un avis là-dessus. Maintenant j'ai mon avis là-dessus, mais en tout cas ce jour-là, marathon de Paris, je prends le mur, mes allures changent. Bien sûr, il y a un kilomètre qui est vraiment extrêmement lent, etc. Mais je suis fier de moi, j'arrive en 3h46, les larmes aux yeux, je repense à tout le parcours que j'ai fait, à tout ce que j'ai vécu. Je repense à mes 105 kilos quelques années avant. Je regarde sur la balance, à ce moment-là, je fais 78, 79 kilos. Je suis extrêmement fier de moi. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Et plus rien. On éteint la lumière. Et oui, le boost post-marathon. J'ai fait un épisode sur le sujet. C'est-à-dire que la semaine qui suit, je ne fais rien. Et la semaine d'après, je fais pas grand-chose non plus. En fait, j'ai marché un tout petit peu, j'ai pas couru, j'ai marché. Plus d'objectifs, plus rien, plus d'objectifs. Et là, bah en fait, je me suis vraiment posé la question de savoir, mais Pourquoi tu cours? À quoi ça sert de courir? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as rempli ton objectif? Tu vas faire quoi? Alors, je commençais à me tâter un peu, à me dire, je pourrais faire un autre marathon, ou je pourrais faire de l'ultra. J'avais dit, dans le podcast, je vais faire un peu d'ultra, je voudrais allonger les distances, faire du trail longue distance, commencer par des 50, des 80, peut-être monter à 100 km, mais tester ce truc-là. Et puis, finalement, il y avait un projet de club qui était de faire le marathon d'Albi en 2020, mais vous connaissez la suite, la pandémie. Préparation avortée alors que je fais 3 semaines de préparation avec des grosses semaines, des belles semaines où vraiment j'avais senti que je progressais. Donc j'avais bien relancé la machine. Et puis une grande pause. Moi, j'ai pas couru pendant le premier confinement. Reprise un peu compliquée. Quand même, faut le dire. Il y a un petit swimrun avec Armano qui passe par là. C'était un grand moment de plaisir. Et puis 2021, vous le savez, opération du genou. Pendant partir de début janvier jusqu'à quand je peux reprendre, on va dire au mois de juin vraiment, ça fait 6 mois pendant lesquels je cours très très peu. Je marche un peu, je cours, j'ai des douleurs, j'ai mon genou qui enfle dès que je commence à courir. C'était début d'année 2021, c'était pas vraiment une très très bonne année sur le plan sportif, il faut le dire. Et puis, quand je peux reprendre, en fait, c'est là que des douleurs de dos, en fait, commencent à augmenter et qu'on essaye de cerner un petit peu. Et puis, on se rend compte que j'ai un tassement lombaire. Et puis, finalement, cette année, on voit que ce qui était cette sciatique, par quoi elle est provoquée, c'est une hernie qui est finalement détectée en 2022. Et on va dire, ça fait un an que je traîne ce truc-là. Donc, voyez que à un moment, c'était tout vol. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Et puis, tout s'arrête d'abord mentalement parce que je n'ai plus d'objectifs. Et quand je retrouve des objectifs, les événements autour font que ça s'arrête. Et puis quand j'essaie de relancer la machine, finalement, là mon genou, je me blesse. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que mon genou était abîmé. Il y a un truc qui le déclenche, un jour qui le déclenche. C'est comme ça. La suite, vous la connaissez. Et donc j'arrive à un stade où finalement, je me retrouve à me dire, est-ce que je vais encore pouvoir courir? Est-ce que je vais encore pouvoir courir? Vraiment, c'est une question que je me suis posée. Vous pouvez aller voir les épisodes qui datent de janvier, février de l'année dernière, notamment un épisode avec Pascal d'Apiron dans lequel on avait justement parlé de lui, il avait été opéré, on avait discuté de ce sujet-là, et il m'a dit non, mais moi j'ai recouru, il m'avait expliqué ce qu'il avait fait, ça m'avait redonné un peu de baume au cœur, parce qu'à un moment donné je me disais mais qu'est-ce qui va se passer après l'opération? Dans quel état je serai? Est-ce que je pourrais courir? Est-ce que j'aurai mal? Est-ce que j'aurai des douleurs? C'est toutes les questions que tout le monde se pose avant d'être opéré, est-ce qu'on va pouvoir revenir vraiment? Et maintenant, si je regarde, est-ce que j'ai progressé? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Est-ce que je suis capable de dire, est-ce que j'ai progressé? Alors, disons-le, je n'ai pas mis de dossard depuis 2 ans. Donc, mon prochain dossard, c'est pour mon anniversaire, 1er d'octobre, c'est pour le 24 heures. Mais depuis, je n'ai pas mis de dossard. Donc, on peut pas dire que j'ai des comparatifs. J'ai pas de comparaison, vraiment. Alors, bien sûr, on pourrait dire, j'ai fait des petits tests de vitesse pour voir un petit peu. Un test de VMA. J'ai perdu 3 points de VMA. Et oui, avant j'avais une VMA à 16. Je me suis retrouvé l'an dernier avec une VMA de 13. Et sans qu'il y paraisse, c'est 3 km/h de moins en VMA. Ça a une importance vraiment vraiment capitale. C'est-à-dire que quand je regarde mes temps sur 5 km, sur 10 km, sur marathon, je peux pas espérer avoir les mêmes temps. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que je ne cours plus aussi vite. Mon endurance mentale, je l'avais perdue, je peux la retravailler, mais je cours plus lentement qu'avant. Je ne cours pas aussi vite, aussi longtemps aussi. C'est-à-dire que tenir mon allure marathon d'avant est difficile. Et puis la tenir de toute façon aussi longtemps que je le faisais avant est impossible. C'est vraiment mission impossible. C'est-à-dire que mon nouvel allure marathon ne doit plus être calculé sur un pourcentage de 16 de VMA, mais sur un pourcentage de 13. Et donc forcément, il faut que je revoie toutes mes allures. D'ailleurs, j'ai mis énormément de temps à le faire. J'ai dit un jour dans une vidéo du Hamster Running Club, j'ai fait une vidéo où je montrais mes réglages de Strava, etc., ou une analyse, où en fait, je montrais que en 2022, là, cette année, je n'avais toujours pas corrigé mes temps, mes zones de course, mes zones d'allure d'endurance, de seuil, etc., qui sont calculées par Strava, en fait, étaient toujours calculées sur ma vitesse du marathon de Paris, avec une VMA, donc à l'époque, qui était de 16. Et donc, pareil aussi sur les semis de Vichy que j'avais fait juste avant. Donc, vraiment sur des temps qui étaient calculés autour d'une VMA de 16 et non pas autour d'une VMA de 13 que j'avais l'an dernier. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que pendant 2 ans, j'ai vécu, on va dire, un peu sur cette illusion un peu cette illusion, enfin 2 ans, un peu plus de 2 ans même d'ailleurs, j'ai vécu sur cette illusion que j'étais le coureur encore du marathon de Paris, avec la même vitesse, etc., qui courait pareil, et que bah, finalement j'avais les mêmes allures, alors que en fait je ne tiens plus du tout mon allure du marathon de Paris. Et donc si on regarde ces chiffres, en fait, bah, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai régressé. Je pourrais dire que j'ai régressé, que je pourrais avoir le sentiment d'avoir régressé, que mes perfs ont diminué, donc je suis un moins bon coureur. Et pourtant, maintenant, on pourrait regarder un petit peu les choses différemment. Sortir un petit peu de ça. Bon, là, je cours depuis tous les jours, depuis 420 jours. Pas mal, quand même, pas mal. Comme je disais dans mon bilan, j'ai passé, dans mon bilan de la course tous les jours, j'ai passé pour la première fois le cap des 2000 km en 365 jours. Les autres années, vous savez, sur Strava, je mettais un objectif, je voulais courir 2000 km par an. Je n'y arrivais pas. Et là, en 365 jours, du 2021 au 26 juillet 2022, j'ai couru plus de 2000 km. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, objectivement, si on prend ce chiffre-là, j'ai progressé. Bon, bien sûr, vous allez me dire, oui, je suis toujours dans le plus, hein, la question de Jean-Yves. J'ai réussi le 496 challenge en janvier. Je devais faire 496 km en faisant 1 km le premier, 2 km le 2, 3 km le 3, et jusqu'au 31 km. Bon, j'ai fait un peu de rab, j'en ai fait 509. Donc, j'ai réussi. Mais on est toujours dans le plus, finalement. Je prépare un 24 heures pour fêter mes 46 ans. Bon, et d'ailleurs, en passage, je passerai ce jour-là normalement le cap des 2022 km en 2022 lors de cette course. Vraiment, voilà, vraiment. Je peux me dire que là, je serai aussi, c'est un objectif, voilà, qui passe. Bon, encore dans le plus, mais ça reste quand même un signe que finalement, bah, j'ai peut-être pas tant régressé que ça. La semaine dernière, j'ai couru 105 km. 105 km. C'est pas ma plus grosse semaine parce que pendant le 496 challenge, j'ai eu une semaine à 195, j'ai eu une autre semaine à 105. Mais j'ai couru 105 km avec le sourire, sans courbature, sans ressentir de fatigue excessive. Et en plus, j'ai bouclé ma semaine sur une très très bonne note, puisque j'ai fait 19 km le dimanche pour aller boire un café. Bah ouais, 19 km pour aller boire un café. Hein. Il y a même les runners qui imaginent ce genre de plan. Et ramener des cookies pour la famille dans mon petit sac. C'était vraiment un super dimanche. Une belle manière de commencer mon dimanche. Et en vous disant ça, j'ai tout simplement, vraiment, le sentiment d'avoir progressé. Tout simplement, bien sûr, c'est un peu... j'ai peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment d'avoir progressé. En regardant vraiment ces données-là, on peut dire oui, j'ai fait des choses que je n'avais pas faites avant. Peut-être que je cours moins vite, peut-être que je cours moins vite, moins longtemps, peut-être que finalement, les entraînements que je faisais en club il y a 2 ans, je suis plus capable de les faire, je ne sais pas, parce que je ne cours plus en club, mais, en fait, ce qui est sûr, c'est que j'ai une progression. Et en fait, je n'ai pas progressé que sur ça. Je suis certifié en préparation mentale, j'ai fait mes premiers accompagnements, donc j'ai aussi appris le mental, travaillé sur le mental, découvert des nouvelles techniques, et là je vous en parle. Je cours en sandales et pieds nus, donc ça m'a apporté une nouvelle pratique, une évolution de ma course. Et puis on pourrait dire aussi que le podcast en lui-même, ma connaissance de la course à pied, ma connaissance du sport, le développement du podcast, de l'audience, de tout ce qui se passe autour, c'est vraiment aussi une source de progrès. Disons-le aussi, hein, le Hamstring Running Club se développe. L'audience du podcast se développe et je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute. J'ai de plus en plus de messages sur Instagram, je vous remercie là encore. Je suis sponsorisé et vous avez entendu les publicités pour des grandes marques et puis pour des petites marques et puis pour des marques de différents secteurs. J'ai des partenaires et je suis ambassadeur de marques. Et quand on regarde un petit peu bah sur mes revenus, alors je peux pas en vivre à 100% sur toute l'année, mais il y a une partie de l'année où mes revenus, mes salaires sont payés directement par les podcasts, vraiment directement par les podcasts. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé il y a 3-4 ans. Au lancement du podcast, je n'aurais jamais imaginé, mais jamais imaginé de ma vie, qu'un jour je serais sponsorisé par Adidas, Nike, The North Face et toutes les autres marques qui ont sponsorisé le podcast. Parce que pour moi, ces marques, bah, elles sponsorisaient en fait les champions. Elles sponsorisaient les grands champions, les athlètes, les vrais athlètes. Pas les gars comme ça, les hamsters qui courent dans leur coin et qui racontent leurs aventures sportives en disant bah, « je suis un coureur lent » ou quoi que ce soit. Et donc, tout ça, en fait, se développe. Ma vie créative et sportive se développe parce que je peux prendre du temps pour développer le Hamstring Running Club, pour créer du contenu. Je suis en train d'écrire mon livre sur comment on devient champion du monde de son monde. Bref, il y a des trucs qui se développent. Vraiment qui se développent et qui viennent non pas directement de mes résultats, de mes performances, mais de ce que je fais autour de la course à pied. Et puis, il y a des personnes qui me semblent inaccessibles, comme ça que je vois sur les réseaux, qui sont très fortement suivis, qui ont vraiment une grosse audience, qui existent là depuis longtemps, qui me connaissent, qui me recommandent, qui écoutent le podcast. Et même des fois, certaines personnes m'envoient des messages et me demandent des conseils. Et là, le jour où j'ai reçu ça la première fois, j'étais vraiment extrêmement surpris. Oui, oui, des personnes qui pour moi sont hautement qualifiées, qu'on pourrait, alors je dis pas que ce sont des influenceurs au sens influenceurs, vous savez, télé-réalité ou quoi que ce soit, mais vraiment qui sont référencés en tant que coach sportif, qui sont connus, qui ont des dizaines et dizaines de milliers de followers. Et ben en fait, m'envoient des fois des messages pour me demander des conseils. D'autres me disent qu'ils connaissent, etc., qu'ils pensent à moi quand ils font la référence à certaines choses. Et ben là, ça veut dire que petit à petit, je prends une place différente dans le monde du running, une place que je pouvais pas imaginer. Et oui, alors c'est pas une place de champion. Non, c'est champion du monde, de mon monde. Mais c'est vraiment là que je commence à vivre ce rêve, à être sportif pro à ma manière. C'était mon rêve d'enfant d'être sportif pro. Et en fait, ben je serais pas sportif pro tel que j'imaginais quand j'étais gamin. Mais je serai à ma manière. Et c'est ça le concept d'être champion du monde, de son monde. C'est-à-dire, c'est d'aller toucher quelque chose différemment, de le faire différemment, mais d'être capable en tout cas de le faire. Et ça, vraiment, quand je regarde ça, je me dis, mais oui, j'ai progressé. Quand je regarde l'ensemble des choses, j'ai progressé. C'est vrai, je cours moins vite. C'est vrai, j'ai perdu ma pointe de vitesse. C'est vrai, si on regarde maintenant, le coureur lent que j'estimais être en 2018 était finalement un coureur bien plus rapide que je suis maintenant. Ça, c'est vrai. Même si je n'ai pas fait d'ultra, comme j'imaginais à l'époque, ben, j'ai quand même progressé. Même si je n'ai pas pu faire le Gravelman qui était prévu cette année, j'ai quand même progressé sur l'année dans ma pratique, dans mon approche, dans ma connaissance, dans l'aide que je peux vous apporter, dans le développement du podcast, dans tout un tas de choses que je fais. J'ai progressé au sens global. Et c'est là un point qui est vraiment important et qui est difficile à percevoir parce qu'en fait, c'est pas vraiment la culture dans laquelle nous vivons. C'est pas vraiment la culture dans laquelle nous avons grandi. En fait, le constat, c'est que nous sommes dans un monde compétitif. Et la France est un monde très compétitif. Il faut le dire, ce qui est, regardez l'école. Quand l'école fait des classements des notes, quand vous avez des professeurs peut-être qui, dans certaines classes, rendaient les copies de celui qui a la meilleure note à celui qui a la plus mauvaise, ou dans l'inverse, hein, celui qui a la plus mauvaise à la meilleure note, les classements, les notes, hein, tout ça. Tout ça d'ailleurs qui est discuté, est-ce qu'il faut vraiment continuer à le faire, à quel point il faut le faire, etc. On est dans un monde de compétition, on est dans un monde compétitif et on est dans un monde de classement, de comparaison. Ça c'est la culture, c'est une culture importante en France, c'est une culture en fait où il faut être finalement devant l'autre, être meilleur que l'autre. Et cette compétition, on l'a fait aussi avec nous-mêmes. On l'a fait aussi avec nous-mêmes. Être meilleur que soi, battre ses propres records, être la meilleure version de soi-même. Chaque jour s'améliore un petit peu. Mais ça signifie quoi, être la meilleure version de soi-même? Ça, c'est un truc difficile à comprendre, finalement, de se dire, c'est quoi la meilleure version de moi-même? Quelle est la meilleure version de moi-même? Tous les jours, je peux être une meilleure version de moi-même par rapport à la veille, par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a des jours, je ne serai pas une meilleure version. Mais ça ne veut pas dire que finalement c'est mal ou quoi que ce soit. J'ai droit d'avoir des jours avec, des jours sans. Tout le monde a des jours sans, tout le monde a des jours avec. Il y a des jours où on est vraiment une meilleure version que la veille, puis il y a des jours où on n'est pas une meilleure version. Mais est-ce que pour autant il faut aller se flageller en disant que c'est problématique, etc. Et puis sur quels critères je juge que finalement je suis une meilleure version de moi-même que la veille et que l'avant-veille? Comment je fais pour le juger? Et donc c'est pour ça que pour parfaire ce monde compétitif, on a placé un élément incontestable comme juge. Et oui, un élément incontestable. Les maths, les chiffres, les records, bah oui, tout ça. Tout ce qui est chiffres, bah oui, on appuie sur un bouton. Premier arrivé, hop, a gagné la course, c'est le premier. Ou alors celui qui fait le meilleur temps a gagné, a le record, etc. C'est des chiffres, c'est des maths. Finalement, ça représente pas grand-chose cette histoire-là. Mais on dit, bah voilà, c'est représenté par un chiffre, on peut pas contredire le chiffre. C'est chronométré. Et puis maintenant, c'est chronométré vraiment tellement précisément, puisqu'on est capable au millième de seconde de séparer le premier du deuxième, ou le deuxième du troisième, ou de dire, bah tiens, lui, il aura la médaille en chocolat. Bah oui, c'est vraiment extrêmement précis. Mais on reste finalement dans un classement, dans des chiffres, dans de la compétition, etc. Et donc, nous voilà, nous tous pris dans la frénésie du record. Battre mon record personnel, prendre la médaille sur un segment Strava, avoir un score de VO2 au max sur la montre, améliorer sa VMA, courir plus longtemps, courir toujours plus. Oui, oui, fameuse question, courir toujours plus. Oui, parce que les scores s'améliorent. Si on fait des séances plus dures, le score de bonne forme, d'énergie, etc., peut s'améliorer sur nos montres. Si on fait des plus grosses séances, la VO2 max va augmenter sur nos montres. Donc on va se dire, oh, putain, je suis un meilleur coureur. Et puis sans parler de ces fameux prédicteurs de course dont je parlais la semaine dernière. Bref, tous les voyants comme ça commencent à monter, etc. Mais finalement, on est dans le toujours plus et puis on est dans une mesure de la performance où finalement, pour battre un record, il faut aller plus vite. Pour prendre la médaille sur un segment Strava, il faut aller plus vite que les autres. Et puis pour prendre sa propre médaille, j'ai envie de dire, pour être dans ses meilleurs temps à soi, il faut se battre soi-même. Mais on reste dans une compétition avec les autres ou avec soi-même. Et là encore, une question se pose, est-ce le seul critère qu'on doit prendre pour dire que finalement, on progresse ou pas? Si par exemple l'an dernier, j'avais fait un marathon après mon opération du genou. Bon, il aurait été plus lent parce que comme j'ai dit, j'ai perdu la VMA. Je passais de 16 à 13. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été aussi beau que le premier? Ça, c'est une vraie question. Alors, aussi beau que le premier, peut-être pas, parce que le premier restera jamais le premier, j'ai envie de dire. Mais mon premier marathon était la fête de ma nouvelle vie. Ce second marathon aurait pu être la fête de mon retour alors que je craignais de ne plus pouvoir courir. Et en soi, ça aurait été magnifique de pouvoir courir un marathon, de dire, j'ai couru un marathon en 2019, je pensais courir un marathon en 2020, il était annulé à cause de la pandémie, 2021, pas pu le faire parce que j'étais blessé, 2022, je reviens, je fête ça après avoir été blessé, après avoir été opéré, avec un genou en meilleure forme, en meilleur état, qui fonctionne mieux, etc. Et ça, je peux le fêter. Mais en fait, je l'ai pas vu comme ça à l'époque. Non, parce que moi, ce que j'ai vu, ce que je craignais, c'était de faire un mauvais temps par rapport à ce que j'avais fait en 2019. Mon ego m'a convaincu de ne pas le faire, car j'aurais fait un moins bon temps, un plus mauvais temps. Et donc, à partir de là, quand mon ego a parlé, l'ego c'est quoi? C'est la représentation qu'on a de nous-mêmes. Ben finalement, j'ai trouvé des arguments rationnels pour justifier cette crainte, pour justifier le fait que je battrais pas mon record et que moi, dans ma tête, si je faisais un autre marathon, je devais battre mon record. Ben oui, mais là, c'est mon ego qui a parlé. Et donc, finalement, ça m'amène à la suite de ce que je voulais vous raconter. C'est que dans cette histoire, on a notre image de nous-mêmes qui joue, qui est vraiment extrêmement importante. Cette question d'ego, c'est un autre axe, vraiment. Et je dirais vraiment plus largement que l'ego pur, l'image que nous avons de nous-mêmes, que nous voulons renvoyer aux autres. Et vraiment, peut-être qu'on peut aller jusqu'au bout de quelque chose, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, de comment on veut vieillir, comment nous pouvons craindre de mal vieillir, et même peut-être la peur de la mort, ou en tout cas la peur de ne pas vivre vraiment pleinement jusqu'à sa mort. Et ça, c'est vraiment une question qui nous renvoie, je pense, sur les questions de performance. Et cette question de performance nous renvoie à cette jeunesse qui s'envole. Parce qu'on se dit, bah oui, mais dans quelques années, je pourrais pas courir aussi vite. Dans notre tête, on craint le moment, finalement, où on ne sera plus capable de le faire. Et donc, quand on n'est plus capable de courir aussi vite qu'il y a quelques années, bah on se demande tout simplement si on se rapproche pas de la vieillesse. Alors, je dirais pas de la sénilité, mais en tout cas de se dire que, dans notre tête, c'est une glissade vers la vieillesse. Et donc, la question, finalement, de se dire, comment est-ce qu'on peut accepter que nos perfs baissent, qu'elles baissent avec le temps? C'est de se dire aussi qu'on vieillit et qu'on n'est plus capable, peut-être, de faire ce qu'on faisait avant. Donc, finalement, on devient moins capable. Donc, on se rapproche un petit peu de la mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir demain, mais ça veut juste dire qu'en fait, on est sur la pente. On est sur la pente descendante. On se sent pas sur une pente ascendante. Bon, quand on passe la quarantaine, des fois, quand on fait un peu des calculs, on peut être amené à ça. Par exemple, avec Bruno Hobby, on a parlé du memento mori. Memento mori, c'est la locution latine qui dit « souviens-toi que tu vas mourir ». Bon, si je regarde mon espérance de vie, quand je regarde que j'aurai bientôt 46 ans, normalement, j'ai déjà vécu plus que la moitié de ma vie. Bah oui. Donc, logiquement, quand je regarde un petit peu les choses, je peux me dire « mes meilleures performances, probablement, étaient dans le passé. Et peut-être que je les aurais faites à une époque où celle où je courais pas. » Que si j'avais été un athlète à cette époque-là, que j'aurais fait des super temps, etc., et que je les referais jamais. Bon. Mais avec Bruno Hobby aussi, il y avait une discussion qui était intéressante, qui était de dire, finalement, est-ce que je suis encore capable de faire ça? Parce que Memento Mori, c'est de se dire, combien d'occasions il me reste, par exemple, pour courir, comme lui, comme faire l'Ambraman? Combien de temps il me reste pour faire un marathon, un grand marathon qui me tente? Par exemple, si dans ma vie, je voulais faire le marathon de New York, combien d'occasions il me reste pour faire le marathon de New York dans ma vie, pour vraiment avoir une chance de le faire? Et est-ce que je serai encore capable de le faire longtemps? C'est les questions qui se posent. Pendant combien de temps je suis capable de me dire je vais faire des marathons. Pendant combien de temps je suis capable de faire telle ou telle course? Pendant combien de temps je suis capable de courir à cette vitesse-là? Et à partir de quel âge, par exemple, mes capacités de ce physique ne nous permettent plus de le faire? Et donc, quand on réfléchit à ça, comme ça, bah, finalement, on se dit que, on va faire au maximum de ce qu'on peut tant qu'on peut. Donc, toujours plus vite, plus longtemps, plus loin. Tant que j'en suis capable, je vais courir plus, je vais courir plus vite. Je vais peut-être pas m'éménager, ménager la monture, c'est peut-être pas le moment de le faire. On va se dire, bah non, là, je suis capable de courir vite, je suis capable de faire ça, je vais le faire à fond, à fond, à fond, à fond. Bon, on a plein d'épisodes, on a parlé de ce sujet-là, que ce soit dans Kilomètre 42, dans Sport et Nutrition, c'est des sujets dont on a déjà parlé, parce que finalement, ça nous amène aussi dans la course au trop, à faire trop de choses. Et c'est là, peut-être, qu'on s'épuise un peu. Et c'est peut-être là qu'on vieillit un peu prématurément par certains moments. Et donc, on peut se dire qu'il y a des moments, on va se dire, peut-être qu'à partir d'un certain âge, je serais plus capable de faire ça. Je serais plus capable de faire un ultra. Je serais plus capable de faire un gravelman. Je serais pas capable de faire l'UTMB, un Ironman, ou je ne sais pas quoi. Donc, je vais faire le maximum de choses que je peux cette année. Et puis l'an prochain, puis dans les 2-3 ans qui viennent. Donc, on va aussi dire que je vais faire ça. Je vais enchaîner le plus. Et puis, on va se dire, je ne suis pas capable, dans quelques années, je pourrais pas courir aussi vite. Parce que c'est logique, on me dit, le corps vieillit, on perd nos capacités pulmonaires, on perd des capacités cardiaques, notre rythme cardiaque, notre VMA, va pas progresser éternellement, notre VO2 max non plus, nos capacités vont pas progresser. Bref, on se dit que notre FC max, notre fréquence cardiaque maximum, ne va jamais progresser non plus. Avec l'âge, elle a plutôt tendance à baisser. Et donc, on est un petit peu dans ce schéma-là de dire que finalement, notre corps vieillit, nos capacités diminuent, et donc on pourra jamais courir aussi vite. Et puis, on va se dire aussi, on n'est peut-être pas capable de courir aussi longtemps, que on pourra peut-être plus faire le marathon des sables, que il faut le faire tant que notre corps le peut, et que nous estimons que finalement, nous sommes un peu programmés pour dépérir. Et cela, finalement, nous amène à mon premier argument. Premier argument qui est vraiment important pour moi, c'est l'état d'esprit. Mais quand on parle vraiment de « je suis programmé pour… » mon corps est programmé pour dépérir, c'est-à-dire que il y a un moment donné, on se dit « et on va en parler dans des épisodes qui vont arriver prochainement parce que j'ai des invités dans lesquels on va parler de ce sujet-là, notamment des capacités des enfants dans le sport. Quels sont les moments où on a les plus grandes capacités? À quel moment, finalement, notre corps perd de ses capacités? C'est un truc qui est vraiment très intéressant. Mais en fait, il y a les capacités que notre corps a. Est-ce qu'elles augmentent? Est-ce qu'elles baissent? Etc. Mais il y a aussi comment nous les voyons. Et là, on est sur la question de l'état d'esprit. Et c'est ce qui va m'amener au prochain argument, qui finalement, c'est la réflexion que je me suis faite là tout à l'heure, c'est de dire que cet état d'esprit, on doit peut-être le modifier. Peut-être que la réponse à la question, c'est l'état d'esprit et de comment finalement nous nous voyons. Et pour parler de cet état d'esprit, je suis allé piocher dans ma bibliothèque et j'ai pris le livre « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » par le professeur ou la professeure Carole Dweck. Elle nous démontre que nos talents et nos capacités ne suffisent pas pour atteindre le succès escompté et pour réaliser nos objectifs. En fait, ce qu'elle montre, c'est que notre état d'esprit, notre façon de considérer le monde et d'envisager ses potentialités, participe activement à la réussite que nous avons. Et cette professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford distingue deux états d'esprit, deux mindsets, parce que son livre en anglais s'appelle Mindset. Et vraiment, alors je crois qu'elle en a vendu 2-3 millions, donc c'est vraiment un best-seller que vous allez trouver, je vous mettrai les liens dans les notes d'épisode. C'est vraiment, en fait, elle a déterminé deux états d'esprit. L'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Ce sont deux états d'esprit qui sont, finalement, dans lesquels on va passer de l'un à l'autre. L'état d'esprit fixe, c'est, on pense que nos qualités, nos compétences sont déterminées depuis très longtemps. Certaines depuis notre naissance, puis notre enfance, et certaines même par notre génétique. Nos forces, nos faiblesses sont inhérentes à nous, à notre personnalité, donc on ne peut pas évoluer. Ça, c'est l'état d'esprit fixe. Et dans le sport, ça nous amènerait, par exemple, à penser que on va décroître naturellement, que nos capacités décroissent naturellement, que c'est l'évolution du corps qui fait que, notre cœur n'est pas capable de battre aussi fort, que nos poumons n'ont pas les mêmes capacités, et que c'est irrémédiable, que c'est irréversible, que nos muscles n'auront pas la même souplesse, que nos os n'auront pas la même force, capacité à résister, que nos tendons deviennent moins souples, etc. Et que ça, c'est irréversible. Et si on a cet état d'esprit, et si on ne parvient pas à atteindre des objectifs, c'est tout simplement parce qu'on se dit qu'on ne peut pas, que notre nature nous en empêche, soit parce que notre génétique n'était pas bonne pour être des coureurs de ce niveau-là, etc. Soit que notre corps n'est pas fait parce qu'on n'a pas la cage thoracique suffisamment grande pour avoir des poumons ou je ne sais pas quoi. Bref, soit parce qu'on est trop petit, qu'on a des jambes qui vont pas pour courir à telle ou telle vitesse. On peut trouver plein d'excuses et on peut dire, bah, c'est la nature. C'est notre nature nous en empêche et donc on peut rien faire. C'est comme ça. Et j'ai un peu envie de dire que dans l'état d'esprit fixe, on pourrait rendre les gens qui disent, moi je suis pas un coureur, je serai jamais un coureur, je peux jamais faire du sport, j'en ferai jamais, etc. Et puis de toute façon ma famille n'a jamais fait de sport, et puis de toute façon je n'ai jamais aimé le sport, et donc je reste dans cet état d'esprit totalement fixe de dire je ne sors pas de ça. Et avec cet état d'esprit en fait, on voit pas les obstacles comme des opportunités. Et on s'enferme aussi dans sa pratique. C'est-à-dire que on voit l'obstacle comme étant une fatalité. On peut pas progresser. On est empêché de progresser parce que finalement c'est notre génétique, l'évolution de la nature, c'est le monde qui est comme ça. On peut pas progresser. Et donc finalement l'obstacle, et ça je crois que vous en avez déjà parlé, hein, cette notion de, ou en tout cas j'en ai parlé dans le Star Zoning Club, de livres sur le stoïcisme notamment, où ils disent que l'obstacle est le chemin et que c'est l'obstacle qui nous fait progresser parce qu'il nous amène finalement à réfléchir, à trouver des nouvelles choses, à vraiment arriver à progresser. Moi, ce que je disais, c'est que quand je me suis blessé, quand je fais ma périostite, c'est comme ça que je suis passé au minimalisme. Ma course s'est améliorée le jour où finalement j'ai rencontré un obstacle qui était tellement important que la meilleure solution pour continuer à courir, c'était de faire évoluer ma course pour que finalement cette blessure ne revienne pas. Et là, j'ai eu raison parce qu'à l'époque, je m'étais blessé en courant 30 à 40 km par semaine et que maintenant, j'en cours 2,5 fois plus dans une semaine et que je tape sur mes tibias comme je faisais à l'époque. Et mes tibias, il n'y a plus d'inflammation, ils n'ont pas gonflé ou quoi que ce soit. La périostite, elle revient pas malgré le kilométrage. Donc là, quelque part, c'est aussi un signe de progrès finalement. J'ai vraiment progressé en 4 ans par rapport au tout début du podcast. J'ai vraiment, vraiment, vraiment progressé parce que je me rappelle quand même qu'il y a 4 ans, il y a 4 ans, j'avais fêté mes 42 ans. Il y a 4 ans, vous voyez, on était 15 jours avant le marathon de Lyon et j'ai annoncé sur Instagram que j'étais obligé d'abandonner, que je pouvais pas courir. Et c'était un déchirement à ce moment-là. Et là, je suis donc à 2 semaines de faire le 24 heures, non pas le marathon, mais faire le 24 heures. Et physiquement, quand je tape sur mes mollets, quand j'ai le même geste que ce que je faisais à l'époque, enfin sur mes tibias plutôt, parce que c'est sur les tibias l'inflammation qu'on la sentait, si c'était gonflé ou pas, et ce matin, vraiment machinalement, je le fais, je dis « ils sonnent bien, ils sonnent bien mieux qu'à l'époque ». Mais oui, mais en 4 ans, ça montre aussi que à quel point j'ai progressé là-dedans. Et puis, quand on a l'état d'esprit fixe, en fait, on s'enferme dans sa pratique. C'est-à-dire qu'on dit « je suis un coureur lent et puis je serai toujours un coureur lent ». Et puis je suis un coureur et puis donc je peux pas faire de sport. Ou alors je n'ai jamais couru donc je ne vais jamais courir. Vous voyez, c'est ça l'enfermement. L'état d'esprit fixe, c'est finalement de se dire je suis conditionné à pas faire certaines choses, à faire certaines choses, à dépérir, à perdre en performance. C'est comme ça, c'est la nature, je peux rien faire contre ça. Et puis, donc à côté, on a l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est de penser que nos qualités se développent avant tout par le travail, et donc dans nous, ce qui nous concerne, par l'entraînement. Les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, ou de développement aussi on peut dire, cherchent constamment à progresser, à apprendre, et voient finalement les obstacles comme étant une chance de progresser, voient la difficulté comme étant une chance de progresser. J'ai eu des invités dans ce podcast qui ont ce que j'appelle l'âme d'ingénieur, c'est-à-dire que je vois un problème, je me dis tiens, je vais me lancer tel défi, je décortique toutes les étapes pour arriver en fait à recomposer un plan en disant je vais faire ça, puis 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 ça. Et là, l'âme d'ingénieur, pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit de croissance. Vous savez, c'est de dire, il y a un problème qui est sur mon chemin, comment je fais pour le résoudre? C'est pas comment je fais pour vraiment me dire je vais absolument éviter tous les problèmes ou quoi que ce soit, c'est de dire je vais aller chercher certains trucs, certains problèmes, et me disant, mais je sais que en travaillant, en développant mes compétences, en développant mes capacités, en développant finalement peut-être aussi mon mental sur certaines choses, je suis capable d'aller le faire. Et là, il y a une différence qui est importante entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, c'est que la grosse différence, c'est la prise de risque. L'état d'esprit fixe, c'est faire la même chose ou s'empêcher de faire des choses en se disant « Oui, mais ça, je peux pas le faire parce que je n'ai jamais fait, donc je le ferai pas. Et puis maintenant, je suis trop vieux. Maintenant, je peux plus faire former. Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Ou alors, faut que j'en fasse toujours plus. Et puis, je peux pas le faire. » Ça, c'est du fixe. Et l'état d'esprit de croissance, en fait, il va considérer, tout simplement, quand on a cet état d'esprit, que l'échec fait partie de l'apprentissage. On essaie, on persiste malgré les difficultés, malgré le stress, on tire des leçons, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on se demande comment on améliore, et donc, finalement, on progresse par aussi, soit par on essaye, ça marche, on réussit, mais on a progressé, et puis on essaye, ça marche pas, on tire des leçons, mais on progresse aussi, parce que finalement, la fois suivante, on aura une idée de se dire, bah tiens, ça marchera peut-être mieux la prochaine fois de telle ou telle manière. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important, parce que pour moi, ça répond vraiment à une partie de la question sur cette histoire de performance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se poser quelle est la question? La question que l'on se pose, c'est quel est l'état d'esprit que l'on a? Quel est l'état d'esprit que vous avez? Alors bien sûr, avec un tel descriptif que je vous ai fait, on préfère l'état d'esprit de croissance, ce qui est extrêmement logique. Pourtant, tout le monde, nous tous, nous oscillons entre les deux, en fonction du sujet, notre humeur, nos compétences, notre énergie. Il y a des moments, en fait, on peut être très très fixe, très très fixe. Et puis, il y a des moments où on peut être vraiment dans la croissance. Et puis, il se peut qu'on soit fixe dans le travail, dans la croissance, dans une passion, ou l'inverse. Et puis, on peut se dire que si on est fatigué, on peut être plutôt l'esprit fixe. Et c'est plutôt lui, parce que par un petit peu, on dit « j'ai pas trop le courage de faire ça », on va plutôt rester dans notre zone, fameuse zone de confiance, notre zone de compétence, plutôt que d'aller s'aventurer, c'est de nouvelles choses. Et puis, il faudrait se demander, dans ce cas-là, finalement, comment on pourrait faire ? Bien sûr, la solution serait d'adopter un état d'esprit de croissance dans le sport, mais dans tout ce que l'on fait, c'est de se dire que finalement, on va essayer de nouvelles choses. Et essayer de nouvelles choses en sport, c'est par exemple essayer de nouvelles disciplines, ou essayer de nouvelles sous-disciplines. Bon, là, on parle de course à pied. Dans la course à pied, il y a plein de disciplines. Il y a le 5 km, le 10 km, la piste, le trail, l'ultra, le 6 heures, le 12 heures, le 24 heures. Il y en a plein. On parle de course, on peut rajouter aussi, finalement, les disciplines où la course intervient. Et on pourrait parler, par exemple, on a parlé déjà de duathlon. Vous savez, c'est par équipe, avec un vélo, on court, on fait du vélo. J'ai parlé tout à l'heure de swimrun. On pourrait bien sûr parler de triathlon. On pourrait parler de plein de disciplines qui, finalement, nous permettent aussi de progresser différemment. Vraiment différemment. Tout simplement parce que, c'est peut-être pas les qualités de vitesse. Peut-être que on va pas comparer avec ce qu'on a fait sur marathon il y a quelques temps, sur 5 km, sur 10 km, mais on va comparer par rapport, finalement, à rien, parce qu'on l'a jamais fait. Donc, on va essayer de nouvelles disciplines, on va faire de nouvelles choses, on va apprendre de nouvelles choses, et on va se dire, j'ai peut-être pas très bien nagé, mais oui, je dois être capable de faire 1 ou 2 km en natation pour faire mon premier triathlon, je dois être capable de le faire, m'entraîner un petit peu, je dois être capable de le faire. Et donc, on va progresser. Et donc, finalement, peut-être que on aura le sentiment de pas progresser spécifiquement en course, mais que dans son sport au global, de tout ce que l'on fait, on progresse aussi. C'est par exemple aussi le cas de je me mets au vélo et puis sur le vélo je commence à faire des distances de plus en plus longues, j'arrive à passer les câbles, de faire 100 km, etc. Je passe les petits diplômes et autres. Finalement oui, peut-être que les performances en course ne progressent pas, mais globalement sur la discipline, sur la pratique sportive, il y a la progression parce que le vélo est venu peut-être remplacer, peut-être compléter, et donc passe finalement, nous amène à une évolution sportive différente. Et donc, c'est accepter que notre progression passe par l'évolution de notre pratique. Parce que, on peut se dire que peut-être qu'en vieillissant, on sent qu'on peut courir moins vite, moins longtemps, ou qu'on a moins envie de faire certaines choses, etc. Mais qu'on peut aussi avoir envie de tenter des nouvelles évolutions, nouvelles pratiques. Pas forcément toujours courir avec un dossard, ou alors plutôt faire des offs, plutôt faire des courses à étapes, plutôt que de faire un ultra en une fois. Peut-être qu'on peut se dire, on va faire une course à étapes sur 2-3 jours. Pourquoi pas? Je veux dire que là, c'est chacun va mesurer un petit peu son évolution, comment il va le faire et qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important. Et puis, on va regarder aussi ce qui est possible. Ce qui est possible, des fois, on se dit qu'il y a des choses qui sont impossibles et puis on regarde autour de nous, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui rendent ce qui nous semblait impossible, peut-être possible. Dans ce podcast, j'ai fait des épisodes avec des anciens obèses, des malades du cancer qui ont fait des choses qui me semblent impossibles à moi. Rappelez-vous l'épisode qu'on a fait sur l'UTMB, ayant frôlé la mort d'un cancer, d'avoir vraiment de dire j'ai senti la mort en moi, comment mon invité avait réussi à courir l'UTMB pour aussi aider des enfants, pour aider collecter de l'argent, etc., des enfants qui sont malades du cancer. Ça paraît totalement incroyable, est vraiment impossible, et même lui le pensait impossible avant de le faire. Mais à un moment donné, eh ben, il l'a fait, et il montre que c'est possible. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font des choses qui nous semblent impossibles à nous, et pourtant, quand on regarde un petit peu les choses, on peut se dire qu'en plus, ils le font avec ce que j'appellerais, moi, un handicap de départ. Et vous allez voir pourquoi j'en parle après, mais vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire par là. Et puis, j'ai aussi fait des épisodes où nous avons parlé de ce qui était possible malgré l'âge. Par exemple, dans certains épisodes, on m'a dit que le doyen du Marathon des Sables, il a 80 ans, ou 81 ans, ou peut-être même 83 ans. Courir le marathon moins de 3 heures à 70 ans. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur ma chaîne YouTube. Oui. Courir le marathon moins de 3 heures à plus de 70 ans, c'est possible. Et d'ailleurs, Joe Schoenbrodt, qui est le recordman du monde, en a couru des marathons moins de 3 heures, plus de 70, peut-être 80. Et il a battu le record dans sa catégorie, des plus de 70 ans. Il a passé le marathon en moins de 3 heures. Donc comme quoi, et c'est pas le seul, parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui avait ce temps en dessous de 3 heures et tout. Et donc comme quoi, finalement, ce qui peut-être nous semble impossible, finalement, c'est peut-être possible. Surtout que le fameux Joe, en fait, on se rend compte qu'il a commencé la course à 36 ans. J'ai vu aussi ce week-end, sur le 24 heures, le record du monde du 24 heures a été battu. Il était gros. C'est un ancien obèse qui l'a battu, vous voyez. Bon, bien sûr, peut-être dans sa jeunesse, il a fait du sport du haut niveau, il était, je crois, espoir en kayak ou quoi que ce soit. Mais on peut dire que le kayak soit de la course à pied. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il faisait plus de 100 kilos et que maintenant, il est recordman du monde sur toutes les distances aussi longues que ça. Alors, on peut dire que c'est toujours un extraterrestre, il a des capacités ou quoi que ce soit. Mais n'empêche qu'il montre qu'il y a des choses qui sont possibles. Et puis, on peut faire aussi des pratiques qui sont totalement différentes, je le disais. Marcher, faire du vélo, la micro-aventure aussi est un moyen de modifier sa pratique qui ne va pas rentrer dans la comparaison. L'avantage des micro-aventures d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans le plus pour répondre à Jean-Yves. C'est-à-dire que finalement, la micro-aventure commence à aller faire le premier kilomètre. Rappelez-vous l'épisode avec Lilian qui disait que 1 kilomètre en ligne droite, toujours en ligne droite, à partir camper le soir. D'ailleurs, en parlant de Lilian, j'ai vu qu'il a fait ça avec ses filles dans la semaine. C'est de dire on va partir camper une nuit comme ça, quelques centaines de mètres à quelques kilomètres de la maison. Rappelez-vous aussi l'épisode avec Nakamura qui va faire du VTT la nuit, qui va courir la nuit, qui part à l'aventure comme ça. C'est la micro-aventure, on n'est pas obligé de faire des très longues distances. On n'est pas obligé d'être dans le plus pour avoir de la micro-aventure. On peut le faire à quelques kilomètres, en faisant quelques centaines de mètres parfois de la maison, en changeant de chemin, etc. On peut le faire. Et puis, on a aussi des évolutions dans le sport, comme Bruno Hobby qui se lance en triathlon à 60 ans et boucle l'Ambroman. Ça, c'est un épisode qui a 15 jours, 3 semaines maintenant. Et puis, vous entendrez cette semaine dans Sport Nutrition le témoignage de Lisa qui a eu sa pratique pour avoir une meilleure santé parce que, à un moment donné, le sport qu'elle pratiquait, comment elle le pratiquait, lui a fait perdre ses règles. Et donc, à un moment, il a fallu aussi qu'elle se pose la question de ce que ça créé comme problème sur son corps et notamment l'épuisement de son corps. Et donc, elle a revu sa pratique et comme elle le dit, et vous allez voir, vous allez écouter ça dans l'épisode de la semaine, elle a revu sa pratique totalement différemment, mais aussi avec une autre perspective. Et on peut pas dire qu'elle régresse. Peut-être qu'on pourrait dire, oui, elle fait moins de kilomètres, peut-être moins de classements, peut-être qu'elle aurait pu faire des courses plus longues, etc. Mais en fait, elle progresse à sa manière. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et on peut regarder, mais même les stars de nos disciplines, comme Kian Jornet, par exemple, ont fait évoluer leur pratique pour aller sur d'autres disciplines, sur une évolution de la discipline, sur tenter des nouvelles choses, etc. Parce que c'est ça, l'état d'esprit de progression. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est important. Et pour arriver à avoir cet état d'esprit de croissance, de progression, il faut se fixer des objectifs et se dire que il y a des choses qu'on n'a jamais faites, mais qu'on va essayer de les faire. Et les objectifs, vous savez, c'est du court terme, du moyen terme, du long terme, et surtout les moyens qu'on va mettre pour y arriver. Et donc ces moyens, c'est quoi? C'est l'entraînement, le mode de vie, l'hygiène de vie, et puis bien sûr se dire, on va placer des objectifs de résultats, mais qui sont par rapport à ce que je suis capable de faire. Mais là, ça répond pas encore totalement, complètement à la question. Il faut aller un petit peu plus loin, et je vous propose d'aller plus loin avec un autre argument. Et cet autre argument, peut-être qu'il va vous surprendre, mais en tout cas, quand j'y réfléchis tout à l'heure, je me suis dit que il y avait d'autres sports qui avaient peut-être compris que la mesure de la performance pouvait se faire d'une manière différente que juste regarder le chrono. La question qui se pose là, c'est finalement, qu'est-ce que progresser? Qu'est-ce qu'une performance? La question de départ, qui était de dire, comment est-ce qu'on finalement, comment on gère la baisse de la perf? Mais ça veut dire quoi faire une perf? Ça veut dire quoi progresser? Avec quoi? Avec qui on se compare? Et je leur dis, c'est vraiment un élément important de la motivation finalement. Se dire que quand on a le sentiment de ne plus performer, de ne plus progresser, eh ben on perd de la motivation. J'ai souvent dit que quand on commence tard le sport, on a un gros avantage, c'est qu'en fait on va progresser peut-être beaucoup plus vite et que peut-être que pendant plus longtemps, en vieillissant, on peut atteindre des performances sans se comparer avec ce que notre jeunesse, on aurait pu faire dans notre jeunesse, à la différence des sportifs de haut niveau qui eux finalement savent qu'à partir d'un certain âge, ils vont perdre en performance et qu'ils n'atteindront peut-être plus jamais ces performances-là et que ils ont beau s'entraîner, ils n'arriveront plus jamais à les atteindre. Moi, je pense que quand on commence un petit peu tard, on a cet avantage-là d'avoir une marge de progression qui continue dans le temps, qui continue un peu plus longtemps parce que peut-être l'évolution physiologique, etc., l'usure du corps est un petit peu différente. Mais ça, c'est un détail. Et donc finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce que performer ? Et donc quand on est sur cette logique de qu'est-ce que performer, on pourrait se demander quels sont les ingrédients de la performance ? Qu'est-ce qui fait que des fois on performe ? Qu'est-ce qui fait que des fois on ne performe pas ? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui nous ralentissent parfois ? Hein ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments qui nous ralentissent ? Des explications. En fait, c'est pas pour chercher des excuses, mais pour évaluer si finalement notre environnement, l'évolution de nos compétences, de notre corps, nos capacités du mouvement, peut-être notre âge, finalement, ne sont pas des ralentisseurs et que finalement les baisses de performance telles qu'on les juge, masquent finalement que peut-être que finalement c'est pas vraiment une baisse de performance. Peut-être que c'est une baisse logique, mais que si on la regardait avec un autre œil, on se rendrait compte que finalement, c'est peut-être pas tant une baisse que ça. Alors c'est quoi les éléments dont je parlais ? Par exemple, c'est que nos priorités peuvent évoluer. À un moment, on faisait beaucoup plus d'efforts pour le sport, on s'entraînait peut-être plus, maintenant on en fait moins. Ou on fait différemment, ou peut-être on met moins d'intensité, peut-être qu'on est dans une autre relation. Peut-être qu'on ne peut plus faire ce que nous faisions avant, parce que on a peut-être moins de temps, peut-être pas les budgets pareils, peut-être que avant on était on allait faire certains sports, par exemple, avec des amis, que les amis n'en font plus. Il y a plein de choses qui jouent dans l'environnement. Et donc quand on regarde ça, en fait, on pourrait se demander si finalement nos performances, quand on les compare, il faudrait pas les comparer un petit peu différemment. Et si je reprends mon marathon, par exemple, de 2019 en 3h46, donc je leur dis, mon marathon, 3h46. Si maintenant, là, à la fin de l'année, je faisais un marathon et que je fais en 3h46, on va dire, c'est le même temps qu'il y a 3 ans, donc je n'ai pas progressé. Et si moi, je pensais que j'avais progressé ? Parce que justement, entre-temps, je suis passé par la blessure, je suis passé par l'opération, je suis passé par 6 mois d'arrêt. Donc finalement, je suis passé par cette baisse de VMA. Et donc, si j'arrive à faire 3h46 maintenant, en ayant une VMA plus basse, en ayant perdu ma VMA, en ayant fait cette rééducation, en ayant fait cette pause, ces 6 mois sans courir, finalement, est-ce que mes 3h46 de maintenant, c'est pas une progression par rapport à mes 3h46 de l'époque du marathon de Paris? Bonne question, non? Si je fais un marathon 4h15, est-ce que ça signifie vraiment que j'ai régressé? Là, si je fais le marathon maintenant 4h15, est-ce que j'aurais vraiment régressé? Compte tenu du parcours que j'ai eu, compte tenu de ce que j'ai fait ces derniers temps, compte tenu de ma pratique, des entraînements, compte tenu aussi de mon cadre familial, le contenu du travail, compte tenu de comment ma fille grandit, compte tenu du temps que je peux avoir, etc. Si je fais le marathon en 4 heures et que le prédicteur de course me donne 3h40, est-ce que c'est un échec finalement ? Ou est-ce que c'est pas le prédicteur de course, je vous renvoie à l'épisode de samedi, qui est un peu foireux et que finalement la comparaison elle est pas très bonne ? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que finalement, on pourrait dire, je donne un objectif. Est-ce que mon objectif est bien défini? Et est-ce que finalement, cet objectif qui était peut-être parfois défini par rapport à ce que le prédicteur de course m'annonce, finalement, est-ce que le prédicteur de course, c'est pas lui qui a un problème, plutôt que moi, quand je cours? C'est pas pour chercher une excuse, en fait. C'est pour essayer de dire que, peut-être que des fois, ce qu'on considère comme une mauvaise performance n'est peut-être pas une si mauvaise performance que ça. Et si je faisais un marathon en 3h44, est-ce que ce qui paraît une petite progression par rapport à 3h46 ne serait pas en fait une énorme progression compte tenu de mon évolution de ces dernières années, et je le redis, de mon opération, l'arrêt de 6 mois, mais aussi le fait qu'il y a des jours où c'est plus compliqué de s'entraîner parce que je dois passer, parce que c'est la gestion du temps est peut-être plus compliquée maintenant que quand ma fille était toute petite, parce qu'elle dormait plus, parce que j'avais plus le temps de courir, parce que c'était plus facile de gérer certains éléments de temps, etc. Il y a plein d'éléments qui jouent là-dedans. Mais la vraie question, c'est comment le savoir? Vraiment, comment le savoir? Et là, je suis allé voir un autre sport. Et là, je suis vraiment allé voir un autre sport qu'on peut dire, certains n'ont peut-être pas qualifié de ça de sport, mais pour en avoir fait un petit peu, je peux dire que c'est vraiment un sport. Et ce sport, c'est le golf. J'ai joué un peu au golf dans ma vie, pas très longtemps, mais j'ai un collègue qui jouait depuis des années, il m'avait initié. Un jour, il m'avait proposé de me dire, tiens, ça ne dirait pas d'aller faire du golf. Alors j'avais dit, tiens, je pourrais essayer. J'avais essayé, j'ai commencé à bien apprécier. Donc j'avais continué un petit peu, j'ai acheté des clubs, j'ai pris une licence, je me suis inscrit dans un club, j'ai même pris un entraîneur qui m'a donné les rudiments, etc. pour progresser, le swing, etc. Je me suis entraîné, j'ai fait quelques parties avec ce collègue et d'autres personnes au club, etc. J'ai fait des parcours toutes les semaines. Bref, vous voyez, la progression classique, hein, vraiment la progression classique. Et puis, j'ai découvert comment fonctionnait le golf. Et le golf, ils ont inventé un truc, mais vraiment génial. Vraiment, c'est un truc que je trouve génial. Ils ont trouvé le moyen de faire jouer des joueurs de niveau totalement différent la même partie et qu'un joueur novice soit capable de battre un joueur expérimenté. Et ce truc qu'ils ont mis en place, c'est le handicap. Alors le handicap, je ne voudrais pas vous faire un cours de golf, mais l'idée, elle est très très simple. C'est que chaque joueur a un handicap qui, de 0 à 54. Tout joueur qui débute a un handicap de 54. Voilà, 54. Et on va dire qu'un pro, vraiment les très bons, les très très bons, les pros et tout, avec la progression, leurs compétences, etc., ils auront un handicap de 0. Ce handicap va permettre de calculer le nombre de coups que le joueur doit faire pour boucler un parcours. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, vous savez, le but du golf, c'est vous avez un parcours et il faut faire le moins de coups possible pour rentrer la balle dans le trou, trou par trou, et ça, faire recommencer ça sur 18 trous. Et donc, sur le parcours, il y a ce qu'on appelle des parts. C'est-à-dire que chaque trou a un part, c'est-à-dire le nombre de coups pour rentrer la balle dedans. Donc, peut-être que le trou numéro 1, un par 4, c'est-à-dire que vous avez 4 coups normalement. Le parcours a été fait pour que vous rentriez la balle en 4 coups, avec les coups d'approche, etc. Mais, en fait, la belle subtilité de ce handicap, c'est que il y a peut-être plus de coups, on a droit à plus de coups quand on est moins bon. Sur un parcours de 18 trous, la moyenne, donc, c'est un par 4. Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde, pour certains trous, il y a 4 coups, d'autres coups, il faut 3, d'autres coups, il en faut 5, mais que globalement, en fait, quand on fait un parcours de 18 trous, ça se fait en 72 coups, si on est vraiment dans ce qui était prévu, le par, etc., ça fait 72 coups pour finir le parcours. Normalement, le pro avec un handicap de 0 devrait faire le parcours en 72 coups. Et peut-être même, s'il est très bon, s'il arrive à, selon certains, faire des bogeys, des trucs comme ça, peut-être qu'il y a même faire en 70 coups, 71, 69, ou je ne sais pas quoi. Mais, là où il y a un truc qui est magique, c'est le handicap, va augmenter le nombre de coups possibles. Si j'ai du handicap, j'ai le droit de faire plus de coups. Et, en fait, pour rentrer dedans, parce qu'on en considère que, finalement, quand j'ai ce handicap-là, il me faut plus de coups parce que je n'ai pas les compétences pour faire le parcours dans ce qui était prévu au départ. Moi, avec mon handicap de 54, je n'ai pas 72 coups, mais 72 plus 54 coups, soit 126 coups. Et finalement, je rentre un petit peu dans le par du parcours, c'est-à-dire dans ce que je peux faire par rapport à mes compétences. Et maintenant, donc, imaginons que je fasse une partie avec d'autres personnes. Pareil, Marco. Et Marco, lui, a un handicap de 18. Donc, il doit bloquer le parcours en 72 plus 18, soit 90 coups. Et oui. Et maintenant, on va même ajouter Laure. Laure, elle a un handicap de 11. Ah oui, tiens, ça lui donne 83 coups à elle pour jouer. À la fin, je finis le parcours en 120 coups, soit moins 6 par rapport à ma moyenne calculée par mon handicap. Et oui. Si je fais 120 coups au lieu de 126, finalement, j'ai mieux performé, j'ai fait moins 6. Laure, elle a fait 90 coups, soit 7 au-dessus de ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire 7 au-dessus de ses 83. Et Marco, quand on a tapé 88, il fait 2 coups de moins que son handicap. Qui c'est qui finalement gagne la partie? C'est moi. C'est moi qui gagne la partie. Et en fait, même si j'ai tapé plus de balles, au final, je fais mieux que ma moyenne. Laure, elle fait une contre-performance en tapant moins de coups de la partie, mais en tapant trop par rapport à ce qu'elle aurait dû faire par rapport à son handicap. Et Marco, il a beau avoir progressé un petit peu par rapport à son handicap, en fait, il progresse pas autant que moi. Et c'est ce que veut dire pourquoi je dis ça. Pourquoi c'est magique? Car déjà, on peut jouer à plusieurs, et celui qui gagne n'est pas forcément celui qui tape le plus, on va dire celui qui va le plus vite ou quoi que ce soit. Non. C'est celui qui finalement, par rapport à sa capacité, etc., et vraiment performe le plus par rapport à sa capacité et par rapport au parcours. En fait, ça permet de mesurer ses progrès en changeant les parcours, en changeant les partenaires, en jouant contre différents partenaires. Je le redis, quelqu'un qui n'est pas très bien classé peut battre un bien classé, tout simplement parce qu'il peut faire une meilleure performance par rapport à son niveau. Et les parcours sont plus ou moins faciles, il y a des parcours qui sont très difficiles, des parcours qui sont plus ou moins faciles, qui ont des niveaux de difficulté. En plus, les départs varient aussi en fonction du handicap. Et donc, ça veut dire quoi? Que quand on a prévu les règles du golf, on a pris en compte que finalement, le débutant c'était normal qu'il puisse pas faire le parcours dans les 72 coups prévus, mais qu'en fait, en évoluant petit à petit, il allait se rapprocher de cette capacité à le faire. Alors, c'est vraiment magique, parce qu'au fur et à mesure que son handicap, qu'on progresse, le handicap nous amène finalement à dire, bah oui, maintenant, je suis capable, pour arriver par rapport à mon niveau, bah, je devrais pouvoir le faire en 100 coups, et puis en 95, etc., etc., etc. Vous avez compris un petit peu la logique. Alors, maintenant, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on pourrait pas s'amuser, nous aussi, à avoir un handicap en course, vraiment un handicap en course? C'est vraiment purement fictif et sans une recherche profonde. Et je dois le dire, hein, c'est pas le but du jeu de créer un handicap, des scores entre pour nous comparer les uns aux autres. Mais c'est vraiment pour se dire que finalement, si on prenait en cas, si on devait calculer une sorte de handicap, on pourrait évaluer nos performances en corrigeant les temps que nous faisons par des données complémentaires. En se disant que quelque part, eh ben, c'est un petit peu logique que des fois on aille plus ou moins vite parce qu'il y a plein de choses qui jouent. Par exemple, un débutant, bah, c'est normal, il n'a pas les mêmes compétences que quelqu'un qui a expérimenté. L'âge aussi, c'est vrai, hein, finalement, un coureur de 17 ans, un coureur de 25 ans, un coureur de 60 ans, on l'a dit, le corps ne fonctionne pas de la même manière. Le poids peut jouer, le fait d'avoir des enfants en bas âge ou des ados, quelqu'un qui a un bébé à la maison qui fait passer nuit, bah, il n'aura pas le même niveau de fatigue quelqu'un qui est un ado, qui est très indépendant, etc. La retraite, si on est à la retraite ou au travail, le temps de travail qu'on peut avoir, l'expérience de la course, hein, je le redis, entre débutant ou quoi. Expérience de la distance, est-ce que c'est mon premier marathon, mon deuxième, mon dixième, mon cinquantième? Est-ce que j'ai une blessure récente ou pas? Et puis, on pourrait rajouter aussi un handicap qui vient aussi de la course elle-même. Le dénivelé, par exemple. Oui, il y a des marathons qui sont plats, Berlin, et puis il y a des marathons qui montent un petit peu, moins plat, Paris par exemple. Bah oui, c'est un peu bizarre hein, d'ailleurs de comparer les temps sur les différents marathons, parce qu'on sait très bien que battre le record du monde au marathon de Paris, rien qu'avec les passages sur les ponts, etc., c'est juste impossible par rapport au marathon de Berlin. Et je ne parle même pas du marathon de New York. Et puis il y a des villes ou des marathons où quand ils ont fait le marathon à Clermont, le dénivelé, vous avez des marathons, il y a 600 mètres de dénivelé, là où vous avez 1 ou 2 mètres de dénivelé sur un marathon comme Berlin. Est-ce que c'est logique de comparer les temps de course entre ces marathons? Ben, pas vraiment. Hein. On peut dire que là, il y a un truc, il faudrait un peu le corriger. La température de départ aussi peut jouer. Par exemple, on sait que certaines températures, à partir de certaines températures, eh ben, on va perdre naturellement en vitesse. C'est logique. Et on sait, on dit oui, la température est idéale quand il fait tel, en dessous de 14 degrés, température idéale. Et puis quand il commence à faire trop chaud, on l'a vu par exemple sur le marathon olympique à Tokyo. Quand il fait 30 degrés, c'est compliqué. Et puis je sais pas, il y a en plus l'hydrométrie qui était vraiment extrêmement importante. Bah, là, dans ces conditions-là, le corps n'est pas capable de se refroidir. La transpiration n'est plus aussi efficace. Et donc, bah, ça marche, le corps fonctionne moins bien. Donc, c'est normal qu'on court moins vite. Et le vent, hein, si on se prend du vent pleine face, hein, on a beau dire, hein, si par exemple, reprenons le marathon de Berlin, s'il se courait sous la flotte et s'il se court avec du vent en pleine face sur toute la longueur, bah, c'est normal que les athlètes ne puissent pas faire le même temps. Et donc, est-ce que finalement, ils n'ont pas progressé s'ils courent moins vite que si c'était parfaitement dans les conditions, la météo, etc. Mais finalement, le même temps, est-ce qu'il ne devrait pas être corrigé? Un peu corrigé. Alors, je ne dis pas qu'il va être corrigé, mais je dis qu'en tout cas, est-ce que, dans la logique, finalement, bah, quelqu'un qui court un peu moins vite le marathon, mais avec des conditions vraiment dégueulasses, bah, finalement, n'a quand même pas progressé que s'il avait couru le même marathon dans des conditions parfaites? Ça, c'est une vraie question qui peut se poser. Bien sûr, c'est compliqué parce que dans ce cas-là, on revient sur le problème des records, comment est-ce qu'on fait tomber les records, etc. Et c'est là pourquoi je pose cette question-là, parce que ça donnerait quoi? Bah, des comparaisons déjà qui seraient possibles. Et finalement, de se demander si on ne pourrait pas se comparer, je ne dis pas qu'on pourrait se comparer avec les autres, mais se comparer avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, considérer qu'un retraité qui court depuis 20 ans, eh ben, peut-être qu'il est pénalisé par son âge, par les conséquences sur son corps de vieillissement, de les capacités du corps à courir à certaines vitesses, etc., mais qu'il va le compenser peut-être par l'organisation plus simple parce qu'il a peut-être plus d'enfants à charge à la maison, parce qu'il est retraité donc plus de temps pour s'entraîner, peut-être qu'il peut se reposer plus, peut-être qu'il peut faire une sieste, et puis peut-être aussi qu'il a l'expérience parce que s'il court depuis 20 ans, peut-être qu'il a fait 10 ou 20 marathons. Un jeune homme de 30 ans, par exemple, devrait être plus rapide logiquement, mais si on considère qu'il a un travail, peut-être beaucoup de transport, un enfant bas âge, qui fait passer nuit, un travail, peut-être un peu de surpoids, et qu'il fait son premier marathon, et qu'il a commencé la course il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, bon, bah, on peut dire qu'il y a quand même du handicap. Il y a quand même du handicap. C'est pas le handicap de l'âge, parce que normalement, il est en pleine force, mais son parcours, son historique, l'environnement autour, bah, lui fait une sorte de handicap. Il ne serait pas impossible aussi, par exemple, quand on prend ça, et donc, ce qui veut dire que on pourrait prendre la même personne, hein, la personne de 30 ans, et puis 30 ans plus tard, etc., comparer les temps, en se disant, bah, à cette époque-là, j'étais handicapé par ça, ça, ça. Mais j'avais l'avantage que mon corps fonctionnait de telle ou telle manière. Et puis maintenant, eh ben, j'ai ce fonctionnement-là de mon corps, fonctionne peut-être moins vite sur la vitesse, etc. Mais par contre, je le compense parce que je peux m'entraîner plus, j'ai plus d'expérience, je sais mieux gérer mon alimentation, je sais mieux gérer ça, je sais mieux gérer mes temps de course, je sais mieux passage, j'ai l'habitude, etc. Je stresse moins la veille donc je dors mieux, j'ai plus le problème d'être réveillé la nuit par mes enfants, etc. Et donc, finalement, quand on regarde comme ça, on pourrait comparer en se disant, bah tiens, le mois d'il y a 10 ans et le mois d'il y a 20 ans faisait telle ou telle performance, mais finalement, le mois de maintenant, quand il fait cette performance-là, si on considère les différents handicaps, peut-être que le mois d'il y a 10 ans était peut-être, courait peut-être plus vite que le mois d'il y a 20 ans, etc. Vous voyez un petit peu la logique. Il ne serait pas impossible d'ailleurs qu'en regardant un petit peu comme ça, j'en vienne à juger que mon temps de 3h46 sur marathon à 70 ans était en fait bien moins bon que mon 3h46 de mon premier marathon. Alors que l'on devrait me dire que c'est un super temps pour mon âge. Ouais, vous avez vu, je me projette en me disant, tiens, si je faisais un marathon à 70 ans, si je faisais en 3h46. C'est-à-dire exactement comme je l'ai fait à 42 ans. Et me dire, ben, peut-être qu'à 70 ans, ben, plus d'enfants à la maison, du temps pour faire la sieste, pour me reposer, 30 années d'expérience de course, et oui, 30 années d'expérience de course, peut-être 10, 20 marathons dans la musette, peut-être que j'aurai continué à courir tous les jours. Imaginez, hein, 20 ans à courir tous les jours, l'expérience de course, etc., ma foulée, peut-être que mon corps, je sais pas quoi, enfin, on peut imaginer plein de choses. Et peut-être que je me redis, ouais, ben, mon 3h46 de maintenant, j'ai beau avoir 70 ans, finalement, je pouvais beaucoup plus me préparer, je pouvais faire ça, ça et ça. Et finalement, tout le monde me dit que c'est pas si, que c'est bien pour mon âge parce que c'est impressionnant à cet âge-là. Mais moi, je pourrais dire, bah, finalement, que ma performance que j'ai faite à 42 ans quand je commençais à courir était peut-être plus méritante par rapport au handicap que j'avais à l'époque. Est-ce que pour autant, quand on regarde comme ça, vraiment, on pourrait dire, bah, j'ai pas progressé? Est-ce que j'aurais pas progressé si à 70 ans, je suis capable de faire un marathon en 3h46? Je vous garantis que je serais extrêmement heureux. Je n'aurais peut-être pas progressé sur le temps, mais est-ce que j'aurais pas progressé globalement? Et notamment, dans le fait que, bah, je suis devenu ce fameux vieillard galopant. Ah, là, ça change un petit peu la donne. Et c'est pour ça qu'en fait, je m'amuse avec vous parler de ça. Parce que, finalement, quand on regarde un petit peu les choses, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que, il faut regarder notre performance vraiment avec un œil, déjà, avec bienveillance, avec soi-même. Parce que les questions qui sont posées, c'est de dire que quand on regarde la performance à l'état brut, si on la compare du brut de maintenant avec le brut d'il y a 10 ans, le brut d'il y a 20 ans, quand on commençait, quand on faisait ça, quand on faisait ça, quand on faisait ça, si on prend que le brut et qu'on enlève, qu'on ne prend pas en compte ce handicap que je viens de rajouter sur le modèle du golf, et bien finalement, et bien on peut se dire oui, je ne suis fait que pour décliner. Et là, en ce cas-là, on est dans un état d'esprit très fixe. Vraiment très fixe. Là, finalement, en insérant cette notion de handicap, qu'il faudrait calculer, je ne sais pas comment on pourrait le calculer, mais en se disant, finalement, bah, je me reconnecte finalement à ma vie, mon parcours perso, je relativise, je regarde un petit peu les choses un petit peu différemment. Parce que je peux considérer, tout simplement, que bah, ces vitesses, ces modes de calcul qui sont basés sur juste le temps, ne reflète pas finalement ma progression. Ça reflète pas vraiment ce que je fais, comment je cours, quel est mon parcours, quel était mon historique, etc. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette logique-là. Et des fois, on le voit un petit peu apparaître dans certaines plateformes, par exemple sur Strava, vous savez, qui corrige la vitesse par rapport au dénivelé, par rapport à la pente. Il y a un chiffre, hein, de comparaison, bah, de dire que finalement, si on court 1 km sur du plat et si on court 1 km avec du dénivelé, eh ben, ils vont corriger pour nous ramener sur ce temps-là. Mais en fait, il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait prendre en compte. Et je le dis, hein, on peut le penser. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser nos performances seulement au regard du chrono. On ne peut pas regarder la performance seulement au regard du chrono. Pour reprendre la question de départ, c'est de dire, bah oui, mais par rapport au rythme de vie, par rapport au métier que l'on fait, par rapport au fait que, par exemple, si c'est un métier physique, si on travaille, par exemple, ceux qui font les 3-8, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des problèmes, on pourrait dire, hormonaux, ceux qui ont des problèmes de certaines maladies, ceux qui ont des problèmes de fonctionnement physique, on pourrait dire la souplesse, des choses comme ça. On pourrait avoir plein d'éléments qui pourraient expliquer que finalement, ben, on court peut-être un peu moins vite, un peu moins longtemps, un peu différemment, etc. Mais que l'on progresse quand même. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cet épisode, en reprenant l'histoire du handicap du golf. C'est de dire que si, finalement, à chaque fois qu'on court, et si dans notre carrière de coureur, on avait cette prise en compte d'un certain calcul de handicap, en disant, bon, c'est sûr que là, à cet âge-là, je suis en pleine force de l'âge, mais j'ai aussi des enfants à la maison. J'ai aussi misé, je dois miser beaucoup sur le travail. J'ai les emprunts, j'ai la pression, j'ai des transports, j'ai plein de choses, etc. Moi, par exemple, je m'estime être extrêmement privilégié dans mes capacités à courir tous les jours, à m'entraîner. Je travaille à la maison, j'ai pas de transport, je pars de la maison pour courir, je pars vraiment de la maison pour courir, j'ai des chemins, je peux faire tout ce que je veux depuis la maison, j'ai pas de temps de transport. C'est un vrai privilège. C'est un vrai privilège. Que comparé à des gens, par exemple, si vous êtes à Paris, vous me dites j'ai 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, les 2 heures que vous passez dans les transports, ben moi, c'est 2 heures que peut-être je vais passer à courir. Et ben, si on avait le même temps de course, moi, je considère qu'en fait, vous êtes handicapé. Alors, je dis pas handicapé sur le plan du handicap physique, mais le handicap au niveau du golf, ben que pour vous, c'est un handicap de courir. Vous avez ce handicap parce que vous avez peut-être moins de temps, parce que vous êtes obligé de moins dormir pour avoir du temps d'entraînement, parce que vous avez peut-être les repas sont un peu différents que moi je peux manger à la maison, parce que vous êtes obligé de vous lever plus tôt parce que vous avez 1 heure de métro à faire le matin, etc. Parce que vous rentrez plus tard le soir, parce que vous êtes obligé de vous entraîner plutôt très tôt le matin, vous n'avez pas... Vous pouvez imaginer plein de choses. Et vous dites, oui, mais moi, par exemple, en comparaison, je dirais, ben moi, j'ai ma fille, bon, jusqu'à l'an dernier, elle faisait pas trop ses nuits, toutes les nuits, on se réveillait, etc. C'est un handicap. Alors que vous, ben, vous avez des enfants qui sont plus grands, plus autonomes, qui vont à l'école tout seuls, etc. Alors que moi, je dois aller la chercher, je dois les ramener, etc. Vous voyez, on pourrait avoir ces comparaisons-là. Et le but du jeu n'est pas de se comparer avec les autres. Le but du jeu, c'est de se demander, en fait, si finalement, à l'époque, on a fait cette fameuse perf de référence. Vraiment, cette fameuse perf de référence. Si finalement, on n'avait pas moins de handicap. Certes, on pourrait se dire, j'étais plus jeune, donc je devais courir plus rapidement, etc. Mais j'avais ça. Et maintenant, certes, c'est normal que je cours moins vite, mais j'ai en plus tel handicap. Et finalement, de se demander si la perf, la contre-perf de maintenant, n'est pas finalement plus méritante que la perf qu'on faisait il y a 5 ou 10 ans, où on n'avait pas les mêmes contraintes, où c'était peut-être plus simple de courir, plus simple de faire certaines choses, etc. Et on en revient aussi à la question sur le toujours plus fort, plus loin, plus vite, etc. C'est que ça relativise aussi cette notion-là. C'est de se dire que finalement, si on prend en compte le handicap que nous crée notre environnement, le travail, la vie de famille, la pression qu'on peut avoir, etc., et ben, pour avoir une perf, pour progresser, on n'est peut-être pas obligé de courir plus vite, plus longtemps, faire plus, par rapport à notre environnement de maintenant, on peut finalement continuer à progresser dans notre progresser, faire des meilleures performances, mais en disant, bah, maintenant, bah, par rapport à ce que je suis capable de mettre en entraînement, capable de faire, etc., et bah, c'est logique, je suis moins capable de m'entraîner, je suis pas capable de m'entraîner pareil, etc., et donc, c'est totalement logique que finalement, bah, ma perf soit plus basse, ou que je sois pas capable de courir aussi longtemps, que je sois pas capable que j'ai pas envie ou la capacité de m'entraîner pour courir un ultra et que c'est pas un problème et que c'est vraiment pas un problème mais que ça m'empêche pas de progresser. Et la conclusion de cet épisode, c'est vraiment déjà de regarder ça avec bienveillance, vraiment, et puis d'adopter un état d'esprit ouvert sur les différentes pratiques, mais aussi sur le fait tout simplement que on a l'environnement autour de nous, on a ce que l'on fait au quotidien qui est pas que du sport. Notre métier, on n'est pas sportif pro. C'est pas notre métier. Un jour, je discutais avec un footballeur qui me disait que son métier à lui, c'était de s'entraîner le matin, de faire la sieste l'après-midi, bien dormir la nuit, pour être le plus performant à chaque entraînement et le plus performant possible le vendredi soir quand il y avait match. C'était ça son métier à lui. Il n'avait rien d'autre que ça comme objectif. Son salaire était confortable, assuré, l'appartement loué, il pouvait tranquillement le louer sans se poser les questions des fins de mois, quoi que ce soit. c'était peinard, j'ai envie de dire. En plus, lui, il avait même pas d'enfant. Vous avez qu'à voir le truc. Il avait juste à bien se nourrir, bien se reposer, bien s'entraîner. Les bases de Sam. Il n'avait pas tout le truc à côté. Et donc, forcément, quand on regarde sa performance, on peut se dire qu'il est avantagé. Mais c'est aussi ça qu'offre le sport de haut niveau. Nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau. On n'est pas des sportifs pros. On n'a pas que ça à faire. Et c'est logique qu'à un moment donné, bah, tout notre environnement soit une sorte de handicap, finalement, pour être capable d'avoir certaines performances. Et que peut-être que maintenant, pour revenir sur la question, le handicap que l'on a maintenant, si on ajoute tous les handicaps, est peut-être plus important, finalement, que le bénéfice que l'on a d'avoir une vie qui a pu évoluer dans tel ou tel sens. Peut-être qu'il y a des choses qui sont améliorées pour nous faciliter l'entraînement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui ne se sont pas améliorées et qui nous handicapent plus que ce que ça nous handicapait il y a quelque temps. Et c'est pour ça que j'aime bien cette notion-là de dire qu'en fait, si on avait un tel score, alors j'ai aucune idée de comment on le calcule, hein, là je vous balance ça comme ça en brut, et ben en fait, ça nous permettrait de relativiser et de sortir de cette perf pure, vraiment pure, du pur chrono en fait, du pur chrono. Parce que même quand on regarde des athlètes, des très très bons et autres, quand ils courent des courses, et ben certains en fait, certes ils courent moins vite que d'autres, mais quand on regarde les conditions dans lesquelles ils le font, on peut se dire que, ben, je dis pas qu'ils méritent plus, mais que quelque part pour faire ce temps-là, avec le handicap qu'ils ont, et ben c'est encore une performance qui, à mon avis, est encore plus impressionnante. Et là, je pense notamment à ceux qui font des études, et on l'a vu hein, dans les championnats d'Europe et autres, qui sont cet athlète qui fait médecine tout en s'entraînant. On le voit, on a plein de cas comme ça en fait. C'est vraiment là où on peut relativiser certaines performances et regarder un petit peu les choses, mais le chrono ne permet pas de le faire. Et donc, pour terminer sur cet épisode, vraiment, avoir déjà un état d'esprit ouvert sur les différentes pratiques, se dire que on n'est pas obligé d'être toujours dans le plus, qu'on peut faire évoluer la pratique, qu'on peut modifier son rythme, sa manière de faire, qu'on peut faire plein de choses différemment, et puis que on va regarder un petit peu différemment ce qu'on appelle une perf, sortir peut-être du chrono pur, et puis que si on regarde le chrono, on peut dire que ce chrono, finalement, est aussi le résultat non pas seulement de l'entraînement et de notre capacité à bien courir, à bien s'entraîner, mais aussi de tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on ne peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, et que c'est ça que j'appelle la notion de handicap, en fait, et que il faudrait le prendre en compte pour vraiment se dire est-ce que finalement mes performances elles baissent tant que ça. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre sur Apple Podcast un petit commentaire, vous pouvez venir m'envoyer des messages sur Instagram, vous pouvez partager l'épisode sur Instagram, vous pouvez venir même sur TikTok, vous allez me trouver sur TikTok, Bertrand Soulier, sur Instagram, Bertrand Soulier, et bien entendu dans le Hamster Training Club pour venir discuter de ce sujet-là. Je trouve en fait que c'est vraiment intéressant d'essayer de relativiser ces notions-là, parce que il y a tellement, nous sommes tellement, et puis moi j'en fais partie, à se dire qu'en fait, on se trouve pas très performant, on trouve qu'on court moins vite, moins bien, alors qu'en fait, on progresse de différentes manières et vraiment sur plein de plans différents et qu'il faut regarder la globalité des choses. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode-là. Et je vous remercie d'ailleurs pour les questions et les idées. Puis il y a d'autres questions qui ont été posées. Je les garde en stock parce que ça me permettra de faire d'autres épisodes et puis d'avoir des idées d'invités qui, eux, pour en répondre à ces questions-là. Et donc, je vous remercie en tout cas pour tous vos retours. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de questions, d'autres questions, à m'envoyer un petit message. Et des idées d'invités aussi, à m'envoyer un petit message. Et comme ça aussi, c'est une manière de faire progresser le podcast et justement d'avoir de répondre encore mieux à vos questions. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et bien sûr, samedi, pour un épisode du conseil où je répondrai à une autre question qui m'a été posée. Ciao, ciao les sportifs.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.